VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour. Un haut gradé de l'armée burundaise a affirmé mercredi sur les ondes de plusieurs radios qu'il destituait le président burundais Pierre Nkurunziza. Le point avec Jean-Roger Bion.
La candidature du président à un troisième mandat lors de l'élection du mois prochain provoque depuis près de trois semaines une crise politique sanglante au Burundi. Des soldats ont pris position autour du bâtiment de la radio-télévision publique à Bujumbura, dont ils interdisent l'accès, rapporte un journaliste de Reuters. En ce qui concerne l'arrogance et le défi lancé par le président Nkurunziza à la communauté internationale qui lui a conseillé de respecter la constitution et l'accord de paix d'Arusha, le comité pour l'établissement de la concorde national décide, le président Nkurunziza est limogé, son gouvernement aussi, a déclaré le général Godefroy Niyombare sur plusieurs chaînes de radio.
Alors, le président Nkurunziza se trouve à Dar es Salaam car en fait, il avait rejoint les dirigeants de quatre autres pays de la communauté est-africaine en Tanzanie pour un sommet extraordinaire justement sur la crise politique dans son pays, le Burundi étant un État membre de cette communauté. En République démocratique du Congo, inquiétude sur le sort de Mathieu Ngunjolo, premier inculpé à être acquitté par la Cour pénale internationale. Il a été rapatrié hier à Kinshasa après le rejet par le gouvernement néerlandais de sa demande d'asile aux Pays-Bas parce qu'il craignait de faire l'objet de poursuites dans son pays. Ses proches disent ne pas savoir où il se trouve depuis son retour à Kinshasa. Human Rights Watch suit de près le dossier du leader du Front nationaliste et intégrationniste, le FNI. Des précisions avec Ida Soyeux, chercheuse principale de cette organisation de défense des droits humains, basée à New York, au micro d'Eddie Isango.
Selon nos informations, Mathieu Ngunjolo, après son arrivée ici à Kinshasa hier soir, il était amené par le gouvernement à un hôtel, ici à Kinshasa, en centre-ville, où il sera logé pour quelques jours avant qu'il décide où il veut aller. Et nous avons appelé les autorités congolaises d'assurer que sa sécurité et son bien-être soient garantis. Et aussi, on a appelé la Cour pénale internationale, qui a un bureau ici à Kinshasa, ainsi que l'ambassade des Pays-Bas, de également surveiller de près sa situation aussi longtemps que nécessaire d'assurer sa sécurité ici en RDC Congo.
Est-ce que vous avez fait les suivis plus tard, parce que nous avons été contactés par des gens à Kinshasa qui nous disent que Mathieu Ngunjolo aurait été plutôt amené à une destination inconnue?
On a parlé avec lui et avec les services de sécurité ici et son avocat. Et donc, il est à un hôtel ici à Kinshasa. Et selon les informations, il est en sécurité.
Mathieu Ngunjolo, quand il a été acquitté par la CPI, avait exprimé des craintes pour sa sécurité. Est-ce que vous pensez que sa crainte est justifiée par rapport à la situation en RDC?
Nous espérons que donc, les autorités congolaises vont garantir sa sécurité. Et on va suivre de près la situation ainsi que d'autres observateurs. Et
on pense que Kinshasa, les autorités de Kinshasa pourraient poursuivre Mathieu Ngunjolo, même s'il a été acquitté par la CPI.
On n'a pas appris qu'ils vont poursuivre Ngunjolo sur d'autres crimes, mais on va voir.
Ida Soyeux était en ligne avec Eddie Isango. Au Nigeria, les succès des forces armées contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays n'ont pas été sans dommages collatéraux. Résultat, les personnes déplacées par les violences ne retrouvent souvent que ruines et désolation à leur retour dans leur foyer après des années d'exode. Félix Yepassis Zembrou.
Omar Luka est rentré chez lui à Michika, où il a trouvé sa concession remplie de cadavres. Comme la plupart des habitants, il avait fui cette localité lorsque Boko Haram y a pris pied en septembre. Il constate maintenant que les insurgés l'ont transformé en un cimetière.
Quand nous sommes revenus, nous avons découvert que la maison a été détruite. Toutes nos possessions avaient été déplacées et nous ne pouvions pas rester ici parce qu'il se dégageait une telle puanteur de la maison. Nous avons donc cherché à savoir l'origine de cette odeur. Et à l'arrière-cour, l'on a découvert une fosse où des combattants ont été enterrés en masse.
Michika fait partie des nombreuses localités du Nigeria dont les militaires avaient perdu le contrôle l'an dernier à la suite des attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays. Michika a été reprise en janvier après que les militaires, aidés par les troupes régionales et des mercenaires étrangers, eurent repoussé les insurgés. Des dizaines de villes et villages dans le nord-est du Nigeria ont subi autant de dommages que Michika ou peut-être vécu pire. Un nouveau gouvernement va s'installer à Abuja à la fin du mois. Ici, les gens espèrent fortement que la nouvelle administration va faire ce qui est nécessaire pour les aider à reconstruire leur vie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Tragédie des migrants cherchant à se rendre en Europe. Eh bien, la Commission de l'Union européenne devrait présenter aujourd'hui sa nouvelle stratégie pour l'immigration. Une annonce qui survient plus tôt que prévu en raison des naufrages répétés et autres drames en Méditerranée cette année qui ont coûté la vie à de nombreux candidats à l'immigration en Europe. Salwa Jafari.
La Commission de l'UE devrait dévoiler un plan qui va appeler à partager, à travers un système de quotas, le nombre de migrants légaux dans le bloc européen, afin d'alléger le fardeau des États du sud de la région, notamment l'Italie. Les grandes lignes du projet sont connues, d'autant qu'elles ont été ébauchées devant le Parlement européen. Il entend conforter le rôle de l'Agence de surveillance des frontières, Frontex, amplifier la lutte contre les passeurs, renforcer le système de protection pour les réfugiés, accélérer le retour des illégaux et ouvrir le dossier de la migration économique. Le texte pourrait préciser dès lors que la migration légale serait possible pour des personnes dotées de compétences recherchées en Europe afin de pallier certaines pénuries de main-d'œuvre, quitte sur ce point à prendre le contre-pied d'une partie des membres de la Commission. Écoutez sur ce point le plaidoyer de Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Finalement, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit prendre plus de responsabilités de manière très active et rapide. Il faut qu'il y ait un même niveau de prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble à l'échelle mondiale, notamment par le Conseil de sécurité, par le système des Nations Unies et au niveau national.
Les chefs d'État n'ont jusqu'ici pu se mettre d'accord sur un projet qui pourrait prendre en compte le taux de chômage, le nombre d'habitants et le nombre de réfugiés dans un pays pour fixer le nombre de personnes qu'ils devraient accueillir.
Actualité aux États-Unis, le président Barack Obama a exhorté les Américains à se mobiliser davantage pour lutter contre la pauvreté dans le pays et combler le fossé croissant entre les classes les plus aisées, la classe moyenne et les pauvres. Des précisions avec Félix Yepassis Zembrou.
S'exprimant à l'occasion d'une conférence sur la pauvreté à l'université de Georgetown, ici à Washington, le chef de l'exécutif américain a élargi le débat. Il n'y a aucune raison que l'une des nations les plus prospères au monde ne puisse pas faire davantage pour renforcer l'égalité, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays a une question fondamentale.
What portion of our collective wealth and budget are we willing to invest?
Quelle part de notre richesse collective et du budget sommes-nous prêts à investir dans ce qui peut permettre à un enfant pauvre d'une ville rurale ou dans les Appalaches ou dans les centres-villes d'accéder à ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de conseillers, de réseaux sociaux ou de livres et ordinateurs décents, et ainsi de suite. Bref, ce qu'il lui faut pour réussir. Pour le président américain, personne ne veut être pauvre. Mais les gens naissent souvent dans la pauvreté. Réduire la pauvreté nécessite de la volonté politique et des investissements du gouvernement, a-t-il souligné.
Conflit au Yémen, le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu humanitaire de 5 jours dans le pays. Il exhorte les parties au conflit à permettre la distribution d'urgence de vivres, médicaments et carburants aux civils dans le besoin. Le secrétaire d'État américain John Kerry estime que c'est le moment ou jamais pour la Russie et les séparatistes pro-russes de l'Ukraine de mettre en application l'accord de paix visant à mettre fin aux violences dans l'est de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine a fait ses commentaires en Turquie où il a eu des consultations avec ses homologues des affaires étrangères des pays de l'OTAN. Les déclarations de John Kerry faisaient suite à des entretiens.
Soyez au cœur de l'info.